Bon, ma formation, j'ai commencé par faire, ce qui vous surprendra peut-être, de la sériologie. au Collège de France et à l'École des hautes études, mais ça nourrissait pas son homme, alors j'ai fait tout simplement une licence de lettres, et je suis devenu professeur de lettres classiques. Alors ça m'a amusé pendant 5 ou 6 ans, mais ensuite je me suis trouvé dans le fait que c'était assez répétitif. J'étais en Tunisie, dès l'indépendance, en coopération pour les affaires étrangères, et au lycée, c'était le lycée Alaoui, j'ai créé un ciné-club pour les internes, et comme on avait des caméras à ce moment, des projecteurs 16 mm qu'on pouvait faire avancer, reculer, etc., on a fait pas mal d'expérimentations avec des films. C'est comme ça que je me suis intéressé d'abord à l'audiovisuel. Ensuite, j'ai fait le stage de Saint-Cloud, je pense en 58 ou en 59. Pendant un an où j'ai rencontré le Franck, le Z, un tas d'autres mondes qui étaient les professeurs à l'époque. À cette époque-là, il s'agissait surtout de films et de diapositives et de sons. La télévision, on avait un souvenir très flou. Je suis retourné en Tunisie où j'étais chargé de fonder un centre audiovisuel pour l'ensemble du système. Et on a d'abord fait une méthode de langue, selon le Belk, avec des figurines au tableau de feutre. Vous voyez, c'est un début d'audiovisuel. Et ensuite, nous avons fait surtout des diapositives et un peu de son. Mais ensuite, je suis rentré à Paris. J'étais appelé à ce que s'appelle à l'époque au CNDP, à la radio-télévision scolaire, par Dieu Z. Et je pense que j'ai commencé à la radio-télévision scolaire en 63, 62 ou en 63, ça c'est à vérifier, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de préparer. Et Dieu Z m'a chargé à ce moment-là de préparer les expérimentations en télévision en circuit fermé. Et c'est à partir de ça que je me suis complètement investi dans l'audiovisuel et les médias. La première, c'était les télévisions en circuit fermé qui ont été couronnées par le collège de Marly-le-Roi, qui était entièrement conçu, y compris architecturalement, pour la télévision en circuit fermé. Et qui a démarré, je pense, à la fin de 67. Et on a été rattrapé, évidemment, par 68, mais ça, je pourrais vous le raconter après. Bon, après Marly-le-Roi, on a essayé, et Marly-le-Roi devait servir de laboratoire pour la radio-télévision scolaire. En fait, il a surtout servi d'expérimentation de l'innovation éducative. Parce que, comme je l'avais écrit d'ailleurs dans un article à l'époque, si vous changez de média, etc., il y a beaucoup d'autres choses qui changent. Et avec Marly-le-Roi, on avait introduit une pédagogie par objectif qui, à l'époque, n'était pas du tout la discipline française. On a par exemple aussi fait un latin audiovisuel pour tout le monde,
oui,
en laboratoire de langue, et un tas d'autres expérimentations de ce type-là.
Quel était votre statut à l'époque par rapport à un...
Alors le statut, c'était celui d'un établissement expérimental hors système. Pour vous dire, n'est-ce pas, quand j'allais visiter un des circuits fermés, que ce soit à Saint-Quentin, à Liévin, etc., on lui... On hissait le drapeau national pour signaler qu'il y avait un inspecteur général extrêmement dangereux et que tout le monde devait se tenir à carreau. Et l'inspection générale, on n'avait pas de compte à rendre. On était directement sous le ministère. La deuxième grande aventure, c'était la radio Télébac. Et en particulier, en 68, avec Geneviève Jacquinot et d'autres, on est parti en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que, comme en 68, les profs français sont partis, qu'ils avaient collé à peu près tous les candidats, qu'il y avait une chute énorme, la France généreuse a envoyé Radio Télébac. Alors on est parti avec nos producteurs, notre chef de production, Madame Kim Che Jeunebourg, dont je vous avais déjà parlé, une équipe de professeurs de la radio-télévision scolaire, et on s'est installé dans les studios à la fois de la télévision et de la radio. Et on a mené, je pense, pendant 6 semaines, une expérience de radio-télévac, mais uniquement, comment dire, dans un seul lieu. C'était ça qui était très curieux. Parce qu'on a réuni tous les élèves au lycée d'Abidjan, au lycée de Cocody. Et y compris pour les émissions de radio, elles étaient reçues au lycée de Cocody. Bon, alors, je ne voudrais pas prétendre que c'est grâce à Radio Télébac qu'on a augmenté les pourcentages à la deuxième session du baccalauréat, mais tout simplement, on avait mis nos profs également dans l'équipe de correction, ce qui facilitait grandement. Enfin, de ce point de vue-là, ça a été un succès, et à l'époque, je me souviens, après, on a fait un film qui est peut-être encore à l'INA, sur Radio Télébac. Et une des premières missions pour l'UNESCO, c'était d'aller également en Côte d'Ivoire, de nouveau, mais cette fois-ci pour l'expérimentation de télévision le programme d'éducation télévisuelle, qui est une autre très grande expérience de dimension nationale qui venait après l'expérience d'Egli au Niger et qu'on a faite et qui était évidemment inspirée par les précédents américains au Samoa, etc. et à Salvador. Alors ça a duré à peu près 10 ans. Et c'est quelque chose, enfin, sur lequel j'ai travaillé d'abord avec Berger, et ensuite avec Jean Valérien. Il y avait là-bas aussi Jacquinot, il y avait Claude Faure, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de consultants. Et c'était une expérience qui a fait beaucoup de bruit. Et qui était finalement efficace, en ce sens qu'elle a terriblement accéléré la scolarisation. Je viens de voir par exemple un témoignage par un ancien, Hubert Roy, dont la femme a d'ailleurs fait une thèse avec Geneviève Jacquinot, je pourrais lui en parler tout à l'heure, et où il apparaît que dans les villages, parce qu'il n'y avait pas encore la scolarisation 100%, les petites filles et les petits garçons qui n'étaient pas scolarisés regardaient par la fenêtre.
N'y avait-il pas un effet démiurge dans cette opération en Côte d'Ivoire ?
Il y avait beaucoup de choses. Il y avait en premier point, n'est-ce pas, qu'on a essayé d'introduire les fantasmes, n'est-ce pas, de nos pédagogues de 68, et les idéaux pédagogiques dans un pays qui n'était pas préparé du tout, où on a greffé, n'est-ce pas, sur un substrat tout à fait traditionnel, avec des pédagogies très traditionnelles, qui reposaient sur le respect du maître, on a voulu faire une pédagogie ouverte, etc. Alors ça donnait lieu effectivement à des résultats, c'est-à-dire que les enfants parlaient, mais ils ne savaient pas mémoriser un tas d'autres choses. Et on a introduit les mathématiques modernes, c'est-à-dire qu'on a stabilisé les professeurs ou les instituteurs qui savaient compter, mieux que le français d'ailleurs. On a aussi introduit les méthodes structurales de français, enfin. Toutes les innovations pédagogiques ont été ramassées.
Il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que tout à l'heure vous disiez que cette expérience était globalement positive, même si les termes n'étaient pas employés, et là...
Oui, elle était à la fois globalement positive en ce sens qu'elle a accéléré la scolarisation, au fait que, par exemple, il y a eu un embouteillage pour la sixième, ils n'étaient pas préparés, et en même temps, les enfants ont été repris, évidemment, par le système traditionnel, le plus traditionnel à partir du lycée.
Comment expliquez-vous, 25 ans après Boisquet, que cette expérience est toujours décrite par les gens qui ne l'ont pas vécu, mais qui en ont entendu parler comme d'un échec, comme d'une opération de type éléphant blanc, comme d'un fiasco total?
Ça, c'est dû d'une part au fait, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses en dessous, si vous voulez. Au moment où on a fait Boisquet, et la télévision en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien ne s'intéressait absolument pas à la scolarisation primaire. Si vous regardez les investissements de l'époque, ils allaient vers le supérieur. Et par conséquent, les Ivoiriens se sont dit, puisque les internationaux, soit la coopération, veulent nous payer, n'est-ce pas, un truc, construire des écoles, etc., former nos maîtres, allons-y, laissons-les faire. La meilleure preuve, et une des erreurs commises, c'était par exemple que le centre, si vous voulez, pédagogique, était à Boisquet, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres du ministère. Et le ministère... Et on a refait les curricula, mais sans le ministère. Et pendant un certain temps, jusqu'à une généralisation qui n'a jamais été poussée jusqu'au bout, il y avait deux curricula. Un curriculum éducation télévisuelle et un autre qui était le curriculum normal. Bon. C'est-à-dire vraiment, on a greffé une expérimentation. Mais en même temps, cette expérimentation a eu un effet stimulant sur la scolarisation. N'est-ce pas? Le taux de scolarisation a été augmenté d'à peu près 30%. Il est passé, je crois, de 40 à 70% en un nombre très réduit d'années. Les autres pays n'ont pas réussi ça. Mais en même temps, on n'avait pas préparé le pays à avoir tant de gens formés. Parce qu'une fois qu'on est en... qu'on a réussi l'examen de fin d'année de machin, il y avait le concours d'entrée en sixième, ou l'inscription en sixième. Et ça, par exemple, il faut savoir que les inspections primaires étaient gardées au moment en octobre, n'est-ce pas, les inscriptions par la police. Parce que les parents voulaient absolument inscrire leurs enfants en sixième, il n'y avait évidemment pas assez de place. C'est pas après Boisquet, c'est en même temps. Moi, j'étais déjà à l'UNESCO. Alors, on s'est occupé, là, j'étais dans la division de Dieuzet, qui s'appelle MMT, c'est-à-dire méthode matérielle technique, qui est devenue par la suite science de l'éducation, contenu méthode. Vous voyez le changement. Vous qui parliez d'innovation, etc. Et là, j'étais effectivement en charge de pas mal de choses, c'est-à-dire d'abord de former aux méthodes audiovisuelles et autres, et aux méthodes nouvelles les conseillers techniques principaux et les directeurs nationaux des nombreux projets de l'UNESCO. C'était l'époque, si vous voulez, où l'UNESCO faisait de la substitution. C'est juste après la décolonisation. Et à ce moment-là, les pays faisaient appel plutôt à l'UNESCO qu'à la France ou à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on avait des projets, surtout de formation de maîtres d'ailleurs, n'est-ce pas, et partout des écoles normales. Et on a formé, n'est-ce pas, aux techniques nouvelles les directeurs de ces écoles. Alors on les a formés pas à la télévision, c'était pas le problème, mais à l'utilisation du son et parfois au film. Et surtout, la grande innovation à l'époque, c'était le micro-teaching, c'est-à-dire les micro-enseignements, qui est une méthode de formation de maître qu'on ne fait plus, mais qui consiste, n'est-ce pas, qui toujours, si vous voulez, selon une pédagogie behavioriste, qui consiste, n'est-ce pas, à enregistrer une séquence d'enseignement et à les commenter avec les
acteurs,
hein. les élèves.
Non, pas les élèves, les élèves maîtres. Au moment où je suis parti aussi de l'OFRATEM ou de l'INRP, à l'époque, on commençait à s'intéresser à aux techniques informatiques. Mais il n'y avait pas encore l'ordinateur individuel. Alors on avait des gros machins, et je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait 10 ordinateurs, mais enchaînés les uns sur les autres. On a fait donc là un stage, et on a conclu en 71 qu'il fallait attendre. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, mais à l'UNESCO, il y a eu encore beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire il y a eu les manuels scolaires, il y a eu l'approche systémique, il y a eu toute la logistique, et le fait, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, mettre ensemble un certain nombre de facteurs, c'est ce qu'on avait appris dès Marly Leroy. Par exemple, Marly Leroy, il y avait des problèmes de locaux, et on voulait utiliser pour les études la salle à manger, enfin le réfectoire. Et pour ça, il avait fallu, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas gras, il fallait inventer des tables, n'est-ce pas, qui se rabattaient autrement pour permettre la double fonction. Enfin, dans le détail, la mise en place d'une innovation pédagogique exige énormément de réflexion, énormément d'essais et pas mal d'autres choses. En même temps, par exemple, on s'est aperçu que il y avait des délais et des pesanteurs dans le système éducatif extrêmement lourds. Et que, par exemple, ce sont des choses qu'on a appris avec nos écoles de formation de maîtres. On formait des maîtres aux pédagogies modernes dans les systèmes UNESCO et dans les pays. Mais on formait à peu près 5% de maîtres par an. Ces 5% de maîtres par an, qui étaient des jeunes, des débutants, allaient dans les écoles, dont 95% étaient des anciens.
Merci.
Vous voyez le clash. Mais ça, on ne savait pas. On s'en rendait pas compte, on n'était pas conscient à l'époque.
Tout à l'heure, quand vous parliez de votre intervention, Étienne, à l'UNESCO, vous avez évoqué cette réflexion autour du manuel scolaire, et je me disais comment ils ont fait le lien des techniques modernes, disons, bon, la télévision, l'audiovisuel, pour aller vite, hein, et au manuel scolaire, comment vous êtes...
On l'a fait trois fois, j'ai rencontré ce problème. La première fois, déjà à l'Institut Pédagogique National. lorsque on a fait des émissions de langue d'anglais et qu'on a fait un livre d'accompagnement édité par le ministère. Et le livre d'accompagnement était véritablement un manuel d'anglais. Il y a eu les protestations des éditeurs. Et on a dû cesser. Parce que le livre d'accompagnement était gratuit. Et là, on a rencontré le lobby. Une deuxième fois, c'était comme je l'ai évoqué en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait d'un côté, il n'y avait pas de manuel, véritablement, puisque ces pays, il y avait peut-être un manque drastique de manuel, puisque parfois il y avait un seul manuel par classe, celui du maître. Et on copiait le manuel au tableau. Donc là aussi, on n'a pas fait des documents pour les élèves, on a fait des documents pour les maîtres. Et on croyait à ce moment-là que la télévision nous économiserait l'effort du manuel. Profonde erreur, bien sûr. Parce que on n'apprend pas à lire à la télévision, il faut des livres. Bon. Et ensuite, effectivement, on a pensé que... Mais c'était surtout le concours des nouvelles techniques et de l'imprimerie. Notre souci avec Jean Valérien, c'est le problème, d'une part, de l'importation des manuels, c'est-à-dire des manuels conçus ailleurs et importés dans les pays d'Afrique, où il n'y avait pas d'éditeurs locaux. Enfin, je parle de l'Afrique francophone, parce que, contrairement à cela, en Afrique anglophone, les maisons mères ont construit des filiales. Bon. Et il y a eu énormément de problèmes, et on voulait lancer, on a fait des réunions sur réunions, pour promouvoir une industrie locale et nationale du livre. Et ça, ça a été aussi un de mes combats à l'UNESCO. Et ça ne concernait pas le contenu. Et ensuite, on s'est demandé si cette industrie ne pouvait pas être facilitée en faisant des éditions, des co-éditions, c'est-à-dire un même livre, mais imprimé avec une couverture différente et quelques petits changements dans différents pays, c'est-à-dire adapté. Exactement comme vous avez, par exemple, des journaux qui ont des éditions régionales à partir d'un fonds commun. Ça n'a jamais marché. Je vois, par exemple, deux choses. D'une part, on a été énormément précurseurs. Je me souviens que quand j'ai fait des cours à Paris 8, en 1970, déjà, avec nos étudiants, je leur demandais de peser les cartables. Et on a fait une enquête sur l'utilisation du manuel par les élèves, pour s'apercevoir qu'à la fin, les élèves n'utilisaient pas du tout le manuel. Mais que les petits élèves, évidemment, étaient complètement asservis. La deuxième chose qui me paraît toujours encore évidente, c'est qu'on veut toujours se servir des technologies, non pas pour faire quelque chose de nouveau, mais pour reproduire l'ancien en mieux. Et on ne s'interroge absolument pas sur les aspects nouveaux. Par exemple, avec Valérien, on a écrit là-dessus. On s'est interrogé dans le système français quelle pouvait être la part respective des cours traditionnels, des technologies et de l'auto-apprentissage. C'est une réflexion qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire de dire que le rôle de l'enseignant, il y a des choses qui doivent être enseignées, parce qu'il ne suffit pas de distribuer des livres ou un dictionnaire pour que la science ne soit pas infuse. Mais il y a des méthodes différentes et il faut les faire converger. Et ça n'existe pas.